CFM Villefranche, le MAG.
Dans le prolongement de la journée du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la commune de Villefranche-de-Rouergue s'apprête à tenir ce jeudi 27 novembre son premier forum contre les violences faites aux femmes et plus largement un forum qui traitera des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Une initiative forte et nécessaire au regard des chiffres présentés par le ministère de l'Intérieur. Plus de 11% de féminicides pour l'année 2024 par rapport à 2023. Pour parler de l'organisation de ce forum, j'accueille Florence Serrano, adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales et à la jeunesse et vice-présidente du CCAS. CCAS pour Centre Communal d'Action Sociale. Florence Serrano, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci à David de m'avoir invité. Merci beaucoup.
C'est un grand plaisir et je dois dire que c'est une invitation que j'aurais souhaité vous adresser bien plus tôt pour parler de votre investissement. Depuis le début du mandat, vous avez témoigné d'un engagement sans faille. On peut dire que vous n'avez pas ménagé vos efforts et j'espère qu'en marge de cet échange autour du forum, on aura un petit peu de temps pour parler de cet engagement, de cet investissement depuis 2020, donc date de vos prises de fonction au poste de adjointe aux affaires sociales et à la jeunesse. Le centre local de sécurité de la prévention de la délinquance est au cœur de l'organisation de ce forum. Pour tout le monde, on va se devoir énormément de pédagogie, il y a énormément d'acronymes dans le monde social. C'est quoi cet organisme que vous avez participé en tant que référente? Le maire de Villefranche est président de cet organisme. Vous avez participé en tant qu'adjointe à relancer cet organisme. Et c'est quoi son rôle?
Alors, on dit CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc effectivement, c'est quand même une grosse machinerie, j'ai envie de dire. Donc nous, on a relancé le CLSPD en 2020, lorsque nous sommes arrivés, puisqu'il était en sommeil depuis quelques temps déjà. Alors pourquoi en sommeil? Parce que c'est difficile de mobiliser les travailleurs sociaux et tous les partenaires autour d'une table sans cadre. Moi, pour avoir échangé avec nombreux d'entre eux, ils souhaitaient qu'on mette en place quand même un dispositif pour sécuriser la parole et sécuriser le secret professionnel. On sait que dans nos professions, c'est compliqué de pouvoir partager. Donc, on a travaillé pendant de longs mois sur la mise en place d'une charte déontologique pour justement sécuriser tout le monde et que la parole soit libérée. Donc, le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance, il constitue le cadre de concertation sur les priorités de la commune concernant la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance. Voilà, ça fait un peu gros mot, mais plus concrètement, on a mis en place trois axes de travail. Donc, on a mis en place une commission qui va travailler plus particulièrement sur les violences intrafamiliales, donc VIF, dont les violences faites aux femmes font partie. On va travailler sur une commission sur la prévention de la délinquance et une commission sur tranquillité publique. Donc autour de la table, nous avons réuni tous les partenaires qui sont en lien avec chacune de ces thématiques. Donc par exemple, pour la prévention de la délinquance, ça passe par les établissements scolaires, les associations, les travailleurs sociaux, il peut y avoir des associations culturelles, il peut y avoir le centre social, toutes les personnes qui sont amenées à côtoyer des jeunes. Concernant la commission de violences intrafamiliales, pareil, on a sur le territoire de nombreux partenaires qui sont mobilisés pour cette cause. Donc on a par exemple, bien sûr, le département qui est mobilisé cette cause. On a aussi Village 12 qui est mobilisé cette cause. On a travaillé aussi avec l'ADAVEM, donc qui est quand même une association qui travaille dans la médiation familiale. On a eu le CIDFF.
Que des acronymes.
Donc,
quand on occupe ce poste, on enrichit son vocabulaire, non, j'imagine, avec tous ces acronymes.
Tout à fait.
Son lexique.
Et puis en plus, je suis travailleur social, donc effectivement,
oui,
un peu habitué à tous ces acronymes. Donc CIDFF, Centre d'information de droit aux femmes. Donc voilà, qui œuvre sur le territoire et nationalement.
Des partenaires là que vous citez, qu'on retrouvera pour la plupart demain à l'occasion de ce forum, premier forum de lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'organisation de ce forum à Villefranche-de-Rouergue ou pas? C'est une question.
Alors justement, Pas du tout. Puisque l'objectif de ce forum, c'est de sensibiliser. C'est à un moment donné de pouvoir permettre, puisque comme vous l'avez dit, le forum, il est destiné donc aux travailleurs sociaux, aux professionnels de santé, aux étudiants, mais aussi à tout public. Donc l'objectif, c'est de pouvoir échanger sur cette problématique et de pouvoir donner des renseignements et des outils aux personnes qui en auraient besoin. Donc les travailleurs sociaux, les partenaires qui accompagnent ce public-là. On a fait un livret, on a travaillé sur deux livrets. Un qui sera à l'usage des professionnels, donc qui permettra aux professionnels, par exemple, lorsqu'ils sont confrontés à une situation où il y a plutôt besoin d'un soutien psychologique, et bien ils ouvrent le livret. Et sur le livret, il aura toutes les associations, les numéros, les jours d'ouverture, de façon à pouvoir orienter la personne. Et à contrario, si on a une personne grand public qui se questionne ou qui rencontre une problématique de violence, elle pourra ouvrir le livret et trouver une association ou un organisme qui pourrait l'accompagner. On a essayé de simplifier le plus possible le parcours des professionnels et des personnes dans ce forum.
Demain, de 15h à 21h30, on ne l'a pas encore dit, ça se passe à la salle des fêtes de la Madeleine. En deux temps, hein, quand je dis de 15h à 21h30, ça c'est, les portes seront ouvertes sur ce volant horaire, mais vous l'avez organisé en deux temps, avec des stands notamment dans l'après-midi de 15h à 19h, des stands de sensibilisation. Et on est plus sur une conférence que vous avez appelée populaire.
C'est ça.
Conférence populaire, tout le monde prend la parole et tout le monde alimente en fait le propos.
Le propos, ouais. C'est exactement ça. En fait, c'est un partage de savoir. Donc c'est une conférence sans conférencier, où chacun est libre de prendre la parole, chacun est libre de s'exprimer, d'échanger, de co-construire les réflexions, et ça se passe dans une dynamique collective et ouverte. Mm-hmm. Alors les objectifs quand même de la conférence, c'est de favoriser l'expression de chacun et chacune sur les violences sexistes et sexuelles, puisqu'on rappelle qu'on l'a appelé le forum des violences faites aux femmes, mais c'est aussi pour lutter contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Mm-hmm. Donc, c'est aussi encourager les échanges d'expériences, entre professionnels ou non. Mutualiser les savoirs, c'est très important sur nos territoires, puisque, comme je l'ai dit, on a énormément de structures qui sont là pour accompagner. Mais souvent, on ne se connaît pas, on se connaît peu, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, c'est l'intérêt aussi, c'est de l'interconnaissance.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est partager aussi des ressources autour de la thématique.
Et plus on se connaît, mieux on travaille ensemble aussi.
Tout à fait. Il y a des barrières qui tombent. Et puis, lorsqu'on est devant une problématique, devant une personne, on dit « Ah oui, mais je sais, il y a un tel qui peut m'aider, je vais l'appeler. » Donc automatiquement, voilà, on répond beaucoup plus vite aux besoins des personnes.
Le PAEJ à Villefranche de Rouergue, oui. Et c'est important de le souligner, l'ouverture d'une antenne du planning familial, je crois que c'était au mois d'avril,
oui.
À Villefranche de Rouergue, chaque premier mercredi du mois, au centre social de Villefranche de Rouergue. Autre acteur, je ne sais pas si on l'a cité, mais le planning familial tiendra un stand demain à la salle des fêtes de la Madeleine.
Alors il y a beaucoup de partenaires, je ne sais pas si je peux tous les citer, mais...
Ça va être compliqué, voilà. En tout cas... ce qui apparaît aussi au travers des chiffres, c'est que 33% des auteurs d'actes de violence sont repérés par la gendarmerie. Alors, on n'est pas là pour pointer du doigt ou montrer qui que ce soit, mais quand même, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
Alors, déjà, au niveau des chiffres, hein, une lecture qui parlera peut-être un peu plus à tout le monde, c'est qu'en France, à l'heure actuelle, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours. Sous les coups de son compagnon. Voilà, parce qu'on peut dire, oui, il y a 130 féminicides en France, ça parle peu. Une femme tous les 3 jours, ça parle plus. Et ensuite, voilà, moi je suis quand même assez soulagée qu'on emprunte depuis quelques années aussi le mot féminicide, puisqu'avant on parlait de faits divers.
Ouais.
Donc là maintenant quand même, on a ciblé la problématique. On sait qu'au niveau national, il y a un ministère des droits des femmes. Voilà, ils ont essayé de mettre en place un budget qui est bien sûr pas suffisant, parce qu'il faut quand même que ça devienne une cause nationale très 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 soutenue. Mmh. Mais voilà, au niveau des chiffres, alors mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est que depuis quelques années, la parole s'est déliée. On a eu MeToo qui est passé par là aussi, qui a permis à des femmes justement de délier la parole. Alors peut-être que cette augmentation du chiffre est la conséquence du fait que les femmes parlent plus ou que l'entourage parle plus aussi. Donc,
c'était sous les radars avant.
Voilà. Et donc, en parlant de sous les radars, au niveau de Villefranche, quand même, donc, au début du mandat, nous avons travaillé avec le département parce qu'il me semblait essentiel, donc déjà sensibiliser à la cause des violences faites aux femmes, hein, puisque ça fait partie de mon métier. On a œuvré avec le département pour mettre en place un poste d'intervenante sociale en commissariat et gendarmerie. Mmh. Alors, ce poste consiste à... Donc c'est là, en l'occurrence, c'est une travailleuse sociale, c'est une assistante sociale, qui permet de pouvoir accueillir en premier lieu et accompagner les femmes qui souhaiteraient porter plainte pour violence conjugale, aussi pour violence intrafamiliale. Elle ne fait pas que ça, mais ça fait quand même partie de ses premières missions. Donc, elle est basée à la gendarmerie à Villefranche, mais elle œuvre aussi sur tout l'Ouest Aveyron. Et donc, il y a eu un essai qui a été mis en place, c'est pas le terme essai, mais bon, en tout cas, on a travaillé pendant 6 mois avec le département. Donc, ils ont mis à disposition une travailleuse sociale à la gendarmerie de Villefranche pour voir si c'était efficient de mettre en place ce poste sur notre territoire. Il s'avérait que, justement, ce que l'on a repéré en premier lieu, c'est que la majorité des personnes, une grande partie des personnes qui venaient consulter l'intervenante sociale de gendarmerie étaient des gens qui n'étaient pas identifiés. Donc, on a réussi à passer sous les radars. Et ça, c'est énorme.
Une forme de médiatrice, en fait, entre le public et la gendarmerie.
Oui, parce qu'on sait qu'aller porter plainte, c'est une épreuve. Ouais. C'est très compliqué. On a de plus en plus de gendarmes et de policiers qui sont formés pour l'accueil des femmes victimes de violences conjugales, mais ça reste quand même quelque chose de très, très, très difficile. Donc, avoir une travailleuse sociale à ses côtés, qui permet de pouvoir rassurer et ensuite de pouvoir orienter et de continuer à accompagner, voilà, c'est très rassurant pour les victimes.
Voilà, on a la sensation quand même que la société a évolué. On peut prendre l'affaire Bertrand Cantat, par exemple, oui, entre ce qu'on pouvait en penser dans les années 2000 et regard qu'on peut porter aujourd'hui sur cette affaire. Là, c'est symptomatique de l'évolution de notre société, qui va dans le bon sens, je serais tenté de dire.
Heureusement, ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. On parlait de faits divers, ouais. Tous les deux étaient alcoolisés, donc c'est fortement leur faute à tous les deux. et donc, automatiquement, on minimise l'acte. Donc, voilà. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a commencé à poser le mot féminicide, on a commencé vraiment à identifier la chose et à prendre, j'ai envie de dire, à prendre le problème du bon sens, c'est-à-dire que la femme reste une victime. Après, je tiens à dire aussi qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, c'est en minorité, hein, mais ça existe. Alors là, au niveau des chiffres, il y a une augmentation des hommes victimes de violences conjugales, mais pareil, je pense que la parole s'est déliée aussi. Et donc, ça leur permet de pouvoir aller voir les instances qui pourraient les accompagner aussi.
Violence physique, mais psychologique aussi, hein, évidemment, c'est un tout. Hein.
Plus difficile à identifier la violence psychologique ou la violence physique.
Le violentomètre, on en a parlé ou pas, en tout cas, c'est un petit outil que l'on va retrouver dans les différents carnets et guides à usage du grand public ou des professionnels. Vous nous en parlez.
Alors, le violentomètre, c'est un outil qui existe depuis des années, hein, pour les professionnels qui accompagnent les personnes victimes de violences conjugales. Vous pouvez les trouver maintenant, vous les trouvez dans les cabinets médicaux, dans les salles d'attente, ils sont affichés. On peut les trouver un peu partout. On les a trouvés aussi, par exemple, sur les sachets qui enveloppent les baguettes de pain. L'objectif, c'est de vraiment démocratiser cet outil, hein, qui est très simple. En fait, c'est comme une, je sais pas comment on peut le dire, une flèche avec une couleur vert, orange et rouge. Il y a des questions qui sont posées, donc qu'on pose à la personne. Et en fonction de la réponse, soit on se trouve dans le vert qui est une relation saine, soit on se retrouve dans l'orange ou attention, vigilance, et dans le rouge, c'est il faut aller chercher de l'aide. Donc, on peut peut-être citer quelques phrases, hein, qui sont, parce que je ne l'ai pas sous les yeux.
Vigilance, tout ce qui est orange, c'est là, on dit stop. Et si on n'est plus en capacité de dire stop, là, il faut aller demander de l'aide. Hein. C'est aussi le passage.
Mais même stop, même en orange, il faut aller demander de l'aide, parce que c'est très difficile. un moment donné de sortir de l'emprise psychologique essentiellement.
Voilà un outil que l'on pourra retrouver dans les différents documents à disposition demain à la salle des fêtes, salle de la Madeleine, à partir de 15h, de 15h à 19h avec ces stands. Ils sont nombreux, vous avez réussi à réunir
mobilisé.
Tout le monde, et même au-delà avec une sélection de documents sur la thématique. Il y a Ouest Aveyron et le contrat territoire lecture qui va faire des propositions d'ouvrages, puisque plus on est informé, plus on a des outils pour se défendre et en tout cas s'orienter. Et donc cette conférence populaire, il y aura un petit food truck également sur place.
Et juste dire que la conférence sera co-animée justement par l'intervenante sociale en gendarmerie, en commissariat et gendarmerie, ainsi que par le PAEJ. Donc voilà, on a des personnes de terrain qui sont quotidiennement sur le terrain qui vont pouvoir co-animer cette conférence.
Premier forum de lutte contre les violences faites aux femmes et notamment des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
C'est ça.
Demain, de 15h à 19h pour les stands de sensibilisation et la conférence populaire. Donc, en fin de soirée, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et tous et en direction des professionnels et des particuliers. Une initiative qu'on peut qualifier de porteuse d'espoir. Et vous êtes vraiment ici, à cet endroit, Florence Serrano, en tant qu'élue, porteuse d'espoir. Tout ce que vous faites, c'est ça porte de l'espoir. Je pense à plus récemment autour de la lutte contre le cancer, le Octobre Rose.
Oui.
Voilà, toute votre action, c'est ce qui vous porte vous-même, j'ai l'impression.
Tout à fait.
Faut que ça mobilise et que ça porte un espoir, un regard vers l'avenir et un meilleur avenir.
Vous m'avez bien identifié, c'est tout à fait ça. Moi, je pars du principe que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, qu'il faut que l'on se mobilise. Moi, je suis une personne de terrain, donc je préfère agir plutôt que parler. Donc, effectivement, et je suis assez dynamique, effectivement. Et j'ai toujours travaillé dans tout mon engagement citoyen, depuis de nombreuses années, à rassembler. Je pars du principe que, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc c'est pour ça que toute la politique sociale et jeunesse que j'essaie de mettre en place, c'est avant tout une politique de partenariat. C'est-à-dire on utilise les forces sur le territoire pour pouvoir agir et œuvrer sur les besoins réels du territoire. Parce que sinon, on peut faire des lettres à la Prévert, écrire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais la réalité du terrain, moi, je trouve les problématiques au sein des personnes qui sont en lien avec ce terrain-là. Donc, Octobre Rose, bien sûr, moi, c'est un combat que je mène depuis de nombreuses années, et pas que depuis que je suis élue.
Vous avez des dossiers chouchous, Florence Serrano.
Et oui, alors, je peux le dire là, en tant que victime du cancer, donc, effectivement, j'ai eu un cancer du sein très jeune, et donc, j'ai bien compris qu'il fallait se mobiliser. Et
le dépistage, parce que plus c'est pris tôt, on le sait.
Et... C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est en fait, donc, toute l'action, elle est sur de la sensibilisation, de l'information. Plus tôt on sera informé, plus tôt on ira se faire dépister et moins la maladie sera invasive. Et ce qui est beau aussi au niveau d'Octobre Rose, c'est quand même, j'aime à le dire, c'est que depuis 2020, on a travaillé petit à petit pour essayer de fédérer autour d'une action qui était la Villefranchoise et qui était déjà très, très importante. Mais maintenant, on a une famille, Octobre Rose. Je suis assez fière de ça. On a à peu près 50 bénévoles qui sont... de tous horizons, du sport, de la culture, de la santé, du social, qui ont œuvré ensemble pour pouvoir travailler sur cette cause. Donc, effectivement, c'est comme ça que j'avance et que je travaille.
Maison des jeunes et des citoyens, inaugurée il y a 2 ans quasiment, tout pile, c'était au mois de novembre 2023. Un mot peut-être aussi, la Maison des jeunes citoyens qui sera également présente demain au forum de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça fait partie des belles réalisations aussi de votre mandat, on peut le dire, Florence Serrano.
Tout à fait. Ouais. La Maison des jeunes est partout.
Les et Florence Serrano aussi. Vous occupez bien le terrain. On vous voit très très fréquemment parce qu'il n'y a pas que ces domaines-là. C'est partout où il y a de l'espoir, il y a Florence Serrano.
Tout à fait, mais c'est-à-dire que le social et la jeunesse, c'est quand même une délégation qui est transversale. Effectivement, le social, ça touche à tout. Donc automatiquement, lorsqu'il y a la possibilité de pouvoir faire avancer, on essaie d'y être. C'est tout à fait ça. La Maison des jeunes citoyens, elle a vu le jour donc, en novembre 2023. Et ça, c'est pareil, c'est un projet moi, que j'avais dans la tête depuis de très nombreuses années, puisque en tant que maman, j'entendais ma fille sur le parking de la place de la Liberté et Je voyais un petit peu ce qui se passait. On est quand même au carrefour de tous les établissements scolaires. C'est là où se retrouve la jeunesse. Et il n'y avait pas de veille sociale. À titre personnel, j'ai dû intervenir à 3 ou 4 reprises, hein, parce qu'un jeune se faisait agresser, parce qu'il y avait du deal. Mais je vous parle de ça il y a 9-10 ans. Mmh. Et donc, c'est vrai que je me suis toujours dit, mais il manque une structure sur cette place, puisque c'est un lieu stratégique pour la jeunesse. Mmh. Donc, effectivement, Jean-Sébastien Orcibal, lorsqu'il est venu me chercher, m'a fait confiance par rapport à ce projet et je l'ai porté. Comme un bébé. Bon, ça a été lourd puisque ça a duré 3 ans. Hein. Mais effectivement, et là aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a vraiment répondu à un besoin. On a vraiment essayé de réparer un trou qu'il y avait dans la raquette, puisque je rappelle, la Maison des jeunes citoyens est destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Donc sur le territoire, on a des associations qui œuvrent. On a le centre de loisirs qui œuvre jusqu'à 11 ans. On a les ateliers La Fontaine qui œuvrent jusqu'à 17 ans. Et après, il n'y avait plus rien. Et on sait que ces tranches d'âge jusqu'à 25 ans, on ne rentre nulle part. On n'a pas droit au RSA, on a un accompagnement par la mission locale, mais qui reste pour certains assez difficile. Donc l'objectif, c'était voilà, de faire en sorte qu'on répare ce trou dans la raquette. Mais avec moi, ce qui m'importe, et mon phare, c'est de faire en sorte que chaque personne trouve sa place dans la société. Alors, on peut dire que c'est une phrase toute faite, effectivement, mais dans les actes, c'est permettre, par exemple, aux jeunes de pouvoir s'investir au sein de la Maison des jeunes citoyens. C'est d'ailleurs la particularité, la particularité de la Maison des jeunes citoyens, c'est qu'il y a une instance de jeunes décisionnaires dans cette maison. Cette maison, c'est la leur. Donc, c'est eux qui décident des animations qui sont mises en place, c'est eux qui décident de ce vers quoi ils veulent s'investir, et après, nos animatrices sont là pour les accompagner dans la réalisation des projets.
Pour les jeunes, par les jeunes.
C'est ça, tout à fait. Et en plus, on l'a ouvert, hein, cette maison des jeunes, de façon à ce qu'il y ait un maximum d'associations et d'institutions qui œuvrent pour la jeunesse, qui puissent venir au sein de cette maison des jeunes citoyens. On accueille le PAEJ, qui est là en permanence, point accueil écoute jeunesse, de Village 12, qui est là en permanence. On a l'AFEV, l'Association pour la vie étudiante aussi, qui est là en permanence. Et on a mis à disposition aussi un bureau, de façon à ce que les associations puissent venir tenir des permanences. Donc que ce soit par exemple le refuge, on avait le centre d'information et d'orientation aussi qui était venu tenir des permanences. Là, on a réussi à travailler avec la région. Donc on a la région qui vient une fois par mois donner des informations aux jeunes. Donc le matin, elle est à la cyberbase et l'après-midi, elle est à la maison des jeunes citoyens. Puis une dernière chose que je souhaiterais rajouter, c'est que vraiment la maison des jeunes citoyens... sa vocation, c'est quand même voilà, de travailler justement, comme je disais, à l'engagement. Travailler au sein de la cité, et donc il y a plusieurs dispositifs, hein, comme les chantiers jeunes, qui ont explosé depuis 2022. Hein. Mm-hmm. Donc on en a ouvert d'autres. Hein. Donc chantiers jeunes, rapidement, ce sont des chantiers de 15 jours en petites vacances scolaires et de 1 mois en grandes vacances scolaires. Les jeunes donc travaillent à l'animation de la ville, vont en EHPAD, jouer avec les personnes âgées, leur faire de la lecture, vont au jardin partager, mener des actions avec les personnes qui sont au jardin partagé. Voilà, un tas d'animations et d'actions qui font qu'à la fin, ils ont une petite bourse pour pouvoir payer une licence, pour pouvoir payer du matériel professionnel, le BSR, participer au permis. Voilà. Ce sont des jeunes aussi qu'on implique dans le cas des chantiers jeunes. Par contre, les chantiers jeunes, c'est beaucoup les animatrices qui font la programmation quand même, parce que c'est un intérêt collectif. Par exemple, ils travaillent sur Octobre Rose. Ils travaillent sur Noël. Ils travaillent, là, on est en train de travailler sur Mars Bleu. Donc, voilà.
Nous les garçons, pour nous les garçons.
C'est ça, on est en train d'y travailler.
je me saisis de ce que j'ai entendu. Jardin partagé pour rebondir sur le CCAS et notamment cette petite nouveauté, le futur service de visiteurs à domicile. Ça, c'est le CCAS, c'est une autre de vos fonctions. Vous êtes vice-présidente du Centre communal d'action sociale.
Encore un gros mot. Non. Le Centre communal d'action sociale, c'est ça. Rapidement, le CCAS, c'est quoi? C'est le premier guichet social de la mairie. Par contre, c'est quand même c'est un organisme autonome. Mmh. Paradoxalement, c'est un service de la mairie, mais c'est un organisme autonome qui a son propre conseil d'administration.
8 personnes y travaillent, hein, c'est dense.
Tout à fait. Ouais. Et on fait de l'accueil social en première instance. Et ensuite, on a donc une chargée de projets sociaux qui est Virginie Montfort, que vous avez déjà reçue.
Absolument.
Hein, qui, avec laquelle je travaille en lien étroit, de façon à développer les...
Vous êtes très très bien entouré, vous savez vous entourer aussi, Florence.
Tout à fait. Je tiens à remercier vraiment toute mon équipe.
De la Maison des Jeunes Citoyens au CCS, vous êtes très très bien entouré.
Oui, tout à fait. Et alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais lorsque je fais un recrutement, 50% compétences, 50% savoir-être.
Ah,
voilà. Ouais, ouais. C'est un peu mes critères. Donc, pour revenir, oui, au CCAS, donc, le CCAS, c'est un établissement public autonome qui a sa propre administration et son propre budget. Donc, on a des actions qui sont engagées en matière d'aide sociale, qui sont obligatoires, comme l'élection de domicile, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas de logement, c'est une boîte aux lettres et une adresse qui permet de pouvoir bénéficier des aides et des dispositifs de droit commun. Ensuite, on fait un accompagnement administratif. Remplir les papiers MDPH, demande d'asile, de carte de séjour. Voilà, on travaille aussi sur... on fait partie de la pré-commission HLM, donc avec Aveyron Habitat. Et après, on a des aides facultatives, donc qui sont propres à chaque CCAS en fonction des besoins du territoire. Donc nous, concernant les aides facultatives, on a l'aide alimentaire, qui est une aide d'urgence, hein, qui est une petite somme, mais je vous donne un exemple très concret. Un vendredi après-midi, une maman arrive, elle n'a plus d'argent pour acheter des couches ou du lait à son enfant. On est en capacité de pouvoir donner une vingtaine d'euros pour aller chercher des couches ou du lait. Mmh. Voilà. La particularité du CCAS, c'est qu'il y a des dispositifs sur le territoire sociaux. Mais par exemple, au département, lorsqu'on va demander une aide, ça prend quelques semaines. Le CCAS a la capacité de pouvoir agir dans l'urgence, mais par contre avec de petits moyens. Et après, on a développé donc les jardins partagés, bien sûr, qui existaient déjà, hein, mais qui ont été un petit peu développés, puisque à côté, nous avons accueilli Génération 12 sur la même parcelle, donc des jardins du lien. Donc il y a des interactions avec les personnes qui sont au jardin partagé et au jardin du lien. Ensuite, ce qui a été énormément développé au CCAS, ce sont les projets sociaux, effectivement. Puisque voilà, moi j'ai travailler avec mes équipes de façon à essayer de répondre au maximum aux besoins du territoire. Et l'une des premières choses que l'on a faites, c'est le réseau des associations qualitatives. Oui. Voilà, 2020.
Encore une fois, dans la même perspective que ce qui était décrit tout à l'heure, mieux on se connaît, mieux on travaille ensemble aussi. C'est d'avoir une coordination dans l'action.
C'est ça, interconnaissance, ouais. Et évaluer ensemble les besoins du territoire. Et un an après, on a créé le réseau handicap. Toujours pareil. Association du handicap qui se retrouvent, qui apprennent à se connaître et qui œuvrent ensemble pour les besoins des personnes en situation de handicap.
Parlons du futur service de visiteurs à domicile. Quoi est-il question, Florence Serrano? Je le rappelle, vous êtes vice-présidente du CCAS, Centre d'Action Communale, et donc déléguée en charge de la jeunesse et des affaires sociales.
C'est ça. Le service des visiteurs à domicile. C'est une continuité de la politique qui est mise en place, hein, c'est-à-dire que on a déjà développé le service de portage repas du CCAS, puisqu'il y a une forte augmentation de la demande. Et c'est vrai que dans le cas du portage repas, en lien aussi avec la période de Covid, on a pu identifier quand même qu'il y avait énormément de personnes qui étaient isolées sur le territoire. Alors isolées parce que la famille est loin. Isolées parce qu'il n'y a plus de famille. Et donc effectivement. Moi, ça me tenait à cœur de créer ce service. Hein. Je fais une parenthèse, si on parlait de moi, c'est que lorsque j'étais au collège, j'ai créé avec 6 autres copains un collectif qui rendait visite aux personnes âgées entre midi et 2.
Alors, vous aviez des dispositions pour occuper les fonctions que vous occupez aujourd'hui.
Donc, vous dire que la boucle est bouclée si on arrive à mettre ça en place. L'objectif de ce service de visiteurs à domicile, il est destiné aux personnes vulnérables de notre communauté. Alors, le CCAS ne peut intervenir que sur Villefranche. On est un centre communal d'action sociale.
Donc parce qu'il se passe des choses en campagne aussi et aux alentours, mais là, c'est,
tout à fait, tout à fait.
C'est le périmètre d'Ouest Aveyron Communauté.
Voilà, ce serait un centre intercommunal d'action sociale.
Ah, c'est la prochaine étape.
À réfléchir. Donc, moi, mon inquiétude, c'était qu'on sait pertinemment que l'isolement est dévastateur pour les personnes âgées. et vulnérables. On connaît les conséquences mentales et physiques de l'isolement. Donc, il était important de pouvoir mettre en place un dispositif mais qui permet de rassurer tout le monde. Parce qu'on le sait, à partir du moment où on dit qu'on va aller chez les personnes, il y a beaucoup de questionnements, ce qui est normal. Donc, nous, ce que l'on souhaite faire, c'est que nos travailleurs sociaux, nous avons deux travailleurs sociaux, nous avons trois travailleurs sociaux au CCAS, mais là, il y en a deux qui interviendraient dans un premier temps à domicile des personnes qui souhaiteraient être visitées, de façon à faire une évaluation aussi sociale, de faire un bilan, de voir avec cette personne-là quels sont ses besoins. Visite de courtoisie, lecture, jeu de société, promenade. Voilà. Et ensuite, donc, l'objectif, c'est de former des bénévoles, justement, à ces visites-là. Et pour cela, on est accompagné par l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui est une association qui œuvre auprès des personnes isolées depuis plus de 80 ans. Une association apolitique, qui n'est pas dans la religion, puisque Petits Frères des Pauvres, on pourrait penser que c'est dans la religion, mais pas du tout. Donc, et cette association va nous permettre de pouvoir former nos bénévoles. Ils ont énormément d'outils, d'expérience. On a travaillé avec eux, par exemple, sur des conventions, sur des chartes, de façon à sécuriser tout le monde. Donc, l'objectif sera aussi, dans un second temps, d'amener les personnes vers des dispositifs existants. Alors, il y a la Maison de l'Amitié, il y a énormément d'associations sportives, d'associations culturelles. Donc, c'est amener les personnes à sortir de chez eux et à renouer du lien social.
C'est important pour bien vieillir, avoir une vie sociale.
Tout à fait.
Et peut-être que ce service de visiteurs à domicile pourrait permettre de faire le lien entre le tissu associatif et donc ce public. Service d'art à domicile, c'est une proposition de Derrière le Hublot. Derrière le Hublot, association qui a fait parler d'elle il y a peu de temps, le week-end dernier. À Villefranche-de-Rouergue avec cet échouage, cette mise en scène d'échouage de cachalots. C'est un chouette et beau service de Derrière le Hublot, le service d'art à domicile. Des artistes se déplacent chez des gens isolés. Peut-être qu'il y a des choses à jouer
DLH. Tout à fait. On est ouvert à toute proposition de façon, bien sûr, à permettre aux personnes de sortir de chez eux. Oui. Et d'ailleurs, là, juste la parenthèse, notre cachalot a fait quand même bouger et sortir beaucoup de personnes ce week-end à Villefranche-de-Rouergue.
Se rencontrer énormément de gens.
Et de sensibiliser justement à la cause du réchauffement climatique. Un chiffre important, c'est plus de 1000 élèves qui sont venus sur le vendredi voir et qui ont pu échanger avec les scientifiques sur cette cause-là.
Voilà, il y avait des vérités scientifiques aussi et une vraie information qui était délivrée à cette occasion. Très très belle proposition de l'association Derrière le Hublot avec le collectif Captain Boomer, collectif belge donc, qui fait tourner cette structure en résine depuis 2008 à travers l'Europe. Et on peut se targuer d'avoir reçu cette proposition ici à Villefranche-de-Rouergue. Vous auriez encore énormément de choses à dire, j'en suis persuadé, Florence Serrano. Merci, ça faisait longtemps que je souhaitais vous lancer cette invitation. Ce premier forum de lutte contre les violences faites aux femmes était une bonne opportunité pour faire un petit point. Violence aussi sexiste, sexuelle et intrafamiliale au programme de ce forum qui se découpera en deux temps de 15h à 19h pour les stands de sensibilisation avec un grand nombre de partenaires et puis de 19h30 à 21h30 cette conférence populaire, c'est tout gratuit, ouvert à toutes et à tous. Merci et bravo Florence. Merci. Serrano et je l'espère à très bientôt dans ces studios pour parler d'autres actions peut-être avec le CCAS parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le CCAS ou encore avec la Maison des Jeunes Citoyens. N'hésitez pas à nous solliciter pour intervenir et diffuser une information. Sensibiliser et porter l'espoir que vous animez sur le territoire. Merci Florence Serrano.
Merci David pour votre invitation, merci beaucoup.
C'était le MAG du jour, merci à toutes et à tous. La suite du programme dans un instant et à bientôt pour une nouvelle édition du magazine d'actualité. 39-19, c'est également, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer demain au forum de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le numéro de référence où vous serez également guidé et orienté. 39-19. Allez, zoupe là.
CFM Villefranche, le MAG.